Hello à tous, ici Jasmine et bienvenue sur Vocation. Vocation est un podcast où nous interrogeons chaque semaine avec Carla et Eloi un actif pour parler de son métier et décrypter avec lui ce qui se cache derrière l'intitulé de son poste. En nous racontant leur parcours, leur journée type, leur perspective de carrière, et j'en passe, nos intervenants nous expliquent ainsi leur métier. Notre objectif, vous l'aurez compris, est de vous aider à trouver votre voie. Aujourd'hui sur Vocation, nous découvrons le métier de planeur stratégique en agence de publicité. Nous accueillons Valentin Lefebvre, planeur stratégique chez BETC. BETC, qui fait partie du groupe Vivendi Havas et qui est une des agences de publicité les plus prestigieuses au monde. Leader en Europe, première en France, connue et reconnue pour la créativité de ses campagnes pour des marques iconiques comme Evian, Philip Morris, Sephora et bien d'autres. Dans cet épisode, Valentin nous raconte son parcours d'une classe préparatoire littéraire à une spécialisation en communication au CELSA à son métier de planeur stratégique chez BETC. Cet épisode vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement d'une agence de publicité et l'élaboration des publicités qui forment notre quotidien. Maintenant, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Valentin pour découvrir le métier de planeur stratégique dans une agence de publicité. Bonjour Valentin.
Salut.
Avant de commencer notre interview, j'aimerais bien savoir ce que tu rêvais de faire quand tu étais enfant.
Alors, quand j'étais enfant, je rêvais pas de faire de la communication, mais je voulais être architecte. Donc, c'est assez marrant parce que je voulais construire des maisons et aujourd'hui, je construis des marques. Donc, c'est assez...
C'est lié, tout est lié.
Voilà.
Ok, super. Et est-ce que maintenant, tu pourrais donc te présenter et nous raconter ton parcours avant d'arriver chez BETC?
Carrément. Donc, en fait, moi, initialement, j'ai fait une prépa à lettres, Hippocane-Cagnes. Et ensuite, je me suis rendu compte que je voulais me diriger vers des études en marketing et en communication. Du coup, j'ai fait Dauphine jusqu'en Master 2, j'ai fait le Master Market. Et ensuite, j'ai fait un double Master 2 au CELSA, c'est l'école de communication et de journalisme de la Sorbonne, et à Assas en entrepreneuriat. Donc voilà, et suite à ça, je suis parti à l'étranger à San Francisco, où j'étais planeur en agence de publicité. Et ensuite, j'ai rejoint BETC en tant que planeur stratégique junior.
Et comment est-ce que t'as identifié un peu les études que tu voulais faire? Comment est-ce que ça s'est passé, ton orientation justement vers ces différentes formations?
En fait, c'était assez naturel pour moi de passer à la communication après les lettres. J'avais un attrait pour les théories un peu de com. Et en fait, en lisant Mythologie de Roland Barthes, je me suis dit c'est fantastique parce que il y a ce rapport un peu réflexif et théorique par rapport à la communication, qu'on retrouve beaucoup chez Barthes. Et en même temps, il y a cette dimension super triviale des choses du quotidien, où il va analyser la mythologie de la boxe ou du steak frites ou de la déesse de Citroën. Et je trouvais que c'était intéressant cet équilibre entre réflexion par rapport à des sujets de société, et en même temps cette dimension triviale qui est la communication. Donc c'est ça en fait qui m'a donné envie de faire de la pub. Et à l'issue de la prépa, en fait, j'avais besoin d'avoir un cursus beaucoup plus poussé en sciences de gestion, parce que c'est important finalement de faire du market, etc., d'avoir une connaissance aussi de la fonction, la façon dont se structure des business.
Et à la fin de tes études du coup au CELSA et à Sasson Entrepreneuriat, comment est-ce qu'en fait t'es arrivé chez BETC? Est-ce que t'as dû faire des compromis sur d'autres perspectives qui te faisaient envie? Et comment ça s'est passé?
Alors en fait, pendant mon cursus, j'ai pu faire des stages et des apprentissages en agence de com, et c'est en arrivant en agence que j'ai vraiment compris quelles étaient les différentes professions au sein de l'agence. Et c'est finalement vers le planning que je me suis orienté. De fait, je me suis donné les moyens de pouvoir faire des entreprises qui me permettraient de faire du planning à l'issue de mon cursus ou du consulting. J'ai réalisé en arrivant en agence que je voulais être beaucoup plus dans la dimension réflexive, penser en amont quelle est la stratégie à adopter, quels sont les gens qu'on veut toucher, quel message on veut déployer auprès de ces personnes. Et donc, du coup, je me suis tourné vers le planning.
Justement, est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les différents postes qui existent dans une agence pour avoir un peu une vue d'ensemble et du coup comprendre la place de l'équipe du planning au sein de l'agence?
Totalement. Alors en fait, nous, le planning, on arrive en amont du développement de la stratégie de communication. C'est-à-dire que l'agence se découpe en trois entités, si je puis dire. Il y a d'un côté le planning stratégique, le commerce et enfin les créatifs. Et nous, au planning, on arrive en amont, donc on réfléchit à à la stratégie de la marque de façon générale, donc comment la marque est positionnée dans son marché, quelles sont les attitudes des gens en société par rapport à la marque, et enfin, quels angles on veut développer. Ensuite, on travaille avec les créatifs et les commerciaux, donc on leur donne notre angle stratégie, notre point de vue sur la société, les gens, la marque, et suite à ça, en fait, c'est les créatifs qui vont bosser pour transformer cet angle en création publicitaire. Et en fait, les commerciaux, eux, vont travailler tout au long du processus, donc être en relation vraiment au day-to-day avec le client et avec les créatifs pour donner corps à la campagne de publicité.
Peut-être du coup, dans un premier temps, avant de décortiquer ton poste de strategic planner, comme on dit, tu peux nous rappeler un peu ce que fait BETC, pour ceux qui ne connaissent pas cette agence.
Alors en fait, BETC, on fait partie du groupe Vivendi, Havas. Et on est la première agence de publicité en France. On est l'une des top 3 en Europe. Et on est connu un peu partout dans le monde parce qu'on a des marques assez internationales, 70% de notre portefeuille, et des campagnes qui ont été récompensées créativement dans plein de prix publicitaires. Donc on a une aura assez grande. L'agence, en fait, en tant que telle, elle se scinde en plein d'expertises spécifiques. On a BETC, bien sûr, mais au sein de BETC, on va avoir BETC Full Six, qui est l'agence spécialisée dans le digital, le retail, la customer experience. On va avoir BETC Luxe, BETC Places, pour justement les espaces urbains, les logements. On va avoir plein d'entités au sein de BETC. Si je puis dire, on a notre obsession, en fait, à BETC, c'est de construire des marques sur le long terme, en fait. On va essayer de construire de la valeur et c'est pas un hasard, finalement, si on accompagne Air France, Canal+, Peugeot depuis plus d'une vingtaine d'années. Et l'obsession au sein de BETC, c'est vraiment de se positionner au croisement du sens et de la créativité. Le sens pour les gens, pour la marque, et la créativité, comment on va exprimer ça.
Et vous êtes combien? Vous êtes où? Pour avoir un peu une idée de chiffres sur l'agence.
J'ai pas envie de dire de bêtises parce que les effectifs, je suis plus trop à jour, mais on est plus de 1000, on doit être 1400 BETC Paris. Après, on a BETC à Sao Paulo, on a BETC à Shanghai et à Londres. Et globalement, on est situé à Pantin, qu'on appelle le Brooklyn de Paris. Alors, c'est des locaux assez sympas. On a repensé nos modes de travail. On est en open space, mais bureau libre. Donc, du coup, il y a une circulation assez importante de gens. Enfin, voilà, le fonctionnement de l'agence est assez innovant. On a essayé de tout repenser, les modes de travail, les façons de faire nos post-déj, de se rencontrer, de... Voilà.
Ok, super intéressant. Bah, venons-en au fait, du coup, donc tu es strategic planner chez BETC. Déjà, est-ce que tu pourrais m'expliquer qui est ton équipe? Comment est-ce que tu m'as expliqué un peu la place de l'ensemble des strategic planners dans la grande famille BETC. Mais déjà, toi, concrètement, est-ce que tu travailles dans une grande équipe? Enfin, comprendre un peu ta place au sein de cette entité. Et après, pour nous expliquer un strategic planner chez BETC, ce qui se cache derrière l'intitulé de ce poste.
Alors, en fait, au consulting, on est un peu plus d'une trentaine. Là, je parle pour BETC. Et la hiérarchie est assez simple. En gros, on arrive en tant que junior. Après, on passe confirmer. Il y a des seniors et il y a des patrons de planning qui sont spécialisés ou non par secteur. Par exemple, on va avoir un patron luxe, un patron plus retail, un patron plus FMCG. Donc Fast Moving Consumer Goods, et après on va avoir des patrons des stratégies, que ce soit pour BETC, pour BETC Full Six, donc du coup voilà, ça s'organise un peu comme ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça, c'est la composition de l'équipe planning, mais en fonction de nos sujets, on va être amené à travailler avec des experts différents. Donc nous, à BETC, on rentre par le centre, donc par le consulting, pour développer la stratégie de marque. Ensuite, on va avoir des planeurs qui vont avoir une affinité ou pas par rapport à certaines catégories. Et après, les équipes au-delà du planning vont être au carré, c'est-à-dire qu'elles vont être définies par les types de personnes avec qui on va travailler. Selon que ce soit un sujet de plateforme de marque ou un sujet plus d'activation ou un sujet d'engagement planning, de customer experience, voilà, on va avoir des équipes qui évoluent en fonction des problématiques clients.
Ok, super clair. Et pour en venir du coup à ton intitulé de poste, est-ce que tu peux nous révéler ce qu'il cache réellement ? Qu'est-ce que ça veut dire être strategic planner ?
Alors, je vais essayer de démystifier ou au contraire créer de l'attrait pour ce poste. Donc, en fait, le planning strat, il a été créé au Royaume-Uni dans les années 60. Et en fait, il s'est imposé ou il est né de la nécessité pour les marques d'avoir une communication plus en phase avec les gens, en adéquation avec la réalité du marché dans lequel finalement ces marques évoluent. Et si je devais résumer de façon simple ce qu'on fait au planning, notre métier, c'est de construire des marques sur le long terme, de créer de la valeur. En gros, le planning, ça consiste en trois choses. La première, c'est essayer de comprendre quelles sont les attitudes, les comportements des gens en société, les tensions et les désirs qui les traversent et ce qui se passe dans le monde dans lequel on évolue. La deuxième chose, c'est vraiment comprendre et analyser les marchés des clients, comprendre les évolutions et les mutations qui s'opèrent et finalement quel est le rôle de la marque dans cette équation, où est-ce que la marque veut aller. Et ensuite, sur la base de ces analyses, et c'est ça qui est fondamental, c'est simplifier le complexe, trouver des angles qui vont orienter la stratégie de marque et bien sûr la création, le travail qu'on fait avec ce département au quotidien pour ensuite développer des campagnes. Donc voilà, c'est finalement le planning strat en trois points. Et au-delà de ça, notre métier, et c'est fondamental, c'est de régler des problèmes business par la créativité, par la communication. En fait, je pense que ça demande énormément de curiosité et d'exigence dans la réflexion, parce que on ne pense pas les gens comme des simples consommateurs. C'est un peu une violence infligée à la grandeur du réel que de prendre une consommatrice et de dire « bah voilà, ma consommatrice, elle boit du café trois fois par jour, elle est comme ça ». Non, on essaye vraiment d'approcher avec le plus de pertinence possible qui sont ces gens, quelles sont leurs vies, quelles sont les tensions qu'ils vivent au quotidien et apporter de l'intelligence à la réflexion, de la créativité dans la proposition de la marque et dans les publicités qu'on va réaliser à leur regard.
Peux-nous donner un exemple d'une campagne ou d'une action, même si elle date, hein, mais pour qu'on se visualise un peu plus ce que tu dis.
Par exemple, là, récemment, on a lancé la nouvelle plateforme de marque du Crédit Agricole, Agir pour le bien de l'individu et de la société. Et donc, du coup, notre enjeu, c'était à la fois d'avoir une posture de marque qui valorise les Français et leur travail, ce qu'ils vivent au quotidien. Donc, c'est une campagne qu'on a lancée là actuellement pendant le coronavirus. Et ensuite, là, notre travail, par exemple, moi, c'est d'essayer d'analyser pour chacune des cibles cet engagement du Crédit Agricole, comment il va se traduire. Par exemple, pour les jeunes, qu'est-ce que ça implique aujourd'hui d'être jeune en société et comment le Crédit Agricole peut aider ces jeunes à se transformer. De la même manière, pour les entrepreneurs qui lancent leur business, comment le Crédit Agricole, au prisme de sa plateforme de marque, qui est Agir dans le bien de l'individu et de la société, on va appuyer, aider ces entrepreneurs. Donc du coup, voilà, c'est vraiment une réflexion qu'on a de marque, quel est le positionnement de la marque, et ensuite, par cible, comment ça se traduit, comment ça se véhicule. Et ça, c'est en perpétuel changement. Okay. Parce que, là, par exemple, on avait des messages clés au regard de ce que les jeunes vivent au quotidien, comment ils évoluent dans leurs études, dans leur recherche du premier boulot, etc. Mais au regard du Covid et de la situation, on réangle nos messages en fonction des tensions qu'ils vivent, etc.
Et pour entrer un peu plus dans le détail, est-ce que tu pourrais m'expliquer concrètement, par exemple, comment se déroule une semaine ou une mission type pour qu'on ait un peu en tête les différentes tâches que tu fais, les différentes étapes dans un projet et du coup comment tu t'intègres dans l'équipe pour qu'on visualise très concrètement, en fait, je suis strategic planner le lundi, ma journée commence comme ça et comprendre un peu mieux et plus concrètement ce que tu fais au quotidien.
Alors, en fait, je pense que c'est compliqué de répondre à cette question parce qu'on n'a pas vraiment de journée ou de semaine type. Et je pense que c'est ça qui rend le travail un peu jouissif, c'est qu'on n'arrive pas le lundi matin, on doit faire un reporting sur un Excel. En fait, on a des missions clés. Donc, par exemple, moi, mon temps va se diviser entre la gestion des clients, Crédit Agricole, le portefeuille Kinder, des appels d'offres, des pitchs, comme on appelle ça en agence. Donc, par exemple, on va pitcher, Philip Morris, AXA ou des pitchs plus gouvernementaux et des recommandations stratégiques sur des sujets de société. Par exemple, moi, là, actuellement, je suis en train de faire une présentation sur accompagner les marques et les gens au rebond suite au déconfinement du coronavirus. Ou, par exemple, une présentation pour Danone sur quel est le futur du marketing en 2030. Ou, c'est la dernière partie des études de tendance, on lance dans plus d'une trentaine de pays qui vise à comprendre ce qui se passe, ce qui se déplace en société sur des sujets de société aussi larges que l'entertainment, le rapport intergénérationnel, le rapport à l'amour, ou par exemple le développement de la ville, de l'urbanisme. Enfin voilà. Donc en fait, c'est ces ensembles de missions qui vont s'interposer tout au long de la semaine. Mais étant donné que les problématiques clients sont jamais les mêmes et les sujets sont en perpétuelle évolution, finalement, il n'y a pas de semaine type à proprement parler. On a plus des grands projets qui s'organisent en fonction des semaines.
Et par équipe, comment est-ce que vous décomposez le travail ?
Alors en fait, généralement, par exemple, moi, pour Crédit Agricole, je suis le planeur référent sur ce compte et je vais avoir une équipe de commerciaux, donc un patron commercial, une directrice clientèle, des chefs de publicité avec lesquels je vais bosser au quotidien pour les présentations qu'on fait, et des équipes créatives qui vont être mises à disposition en fonction des sujets sur lesquels on souhaite communiquer.
C'est quoi pour toi la grande différence entre ton métier et les autres métiers dans la publicité ?
Alors, là où le planning se différencie des autres métiers, c'est que nous, on arrive en amont du processus publicitaire, dans le sens où on va vraiment avoir énormément d'études à disposition, que ce soit des études très marketing de la part des clients, que ce soit des études sur les gens, que ce soit des études sémio, enfin voilà. On va avoir toutes ces études-là, toutes ces réflexions-là, on va devoir lire énormément, enfin, voilà, comprendre ce qui se passe, ce qui se déplace en société, et à partir de ça, on va devoir simplifier le complexe, trouver des angles, distiller un peu la réflexion, pour ensuite travailler avec les commerciaux et les créatifs sur le développement de la campagne. Donc on arrive vraiment en amont, c'est nous un peu qui définissons les angles stratégiques et créatifs à adopter pour la marque. Et moi, tu vois, typiquement, j'étais arrivé, mon premier stage que j'avais fait, j'étais chef de pub, et c'est vrai que c'était un peu frustrant pour moi parce que j'avais envie d'être dans cette partie en amont où tu réfléchis sur quelle est la stratégie à adopter. Et bien sûr,
plutôt que l'exécution ou la mise en place d'une campagne.
Exactement. Voilà, exactement. C'est beaucoup plus réflexif dans la réflexion et en amont de la campagne.
Et justement, c'est quoi pour toi tes gros défis dans une semaine ? Justement, est-ce que c'est la relation au client ? Est-ce que c'est justement la coordination ou la transmission de cette stratégie à l'aval pour les équipes de créa et de commerciaux ? C'est quoi un peu tes défis, toi, chaque semaine ?
J'en vois deux. Le premier défi qu'on peut avoir au planning, c'est que on bosse sur des sujets très différents. Donc, en fait, réussir à jongler entre des sujets qui n'ont rien à voir, tout en gardant de la pertinence dans la réflexion. Donc, c'est plus une question de temporalité, de gestion du temps, tout en étant pertinent. Parce que ça demande toujours de continuer à lire, à s'informer, à voir ce qui se passe. Donc, du coup, c'est un métier de tous les jours. Et en même temps, on a des urgences. Par exemple, là, la communication de crise qu'on est en train de vivre avec le Covid-19. Genre de choses. Donc le premier, oui, c'est vraiment réussir à jongler entre les différents sujets, les différentes problématiques, mais c'est ça aussi qui rend la profession jouissive. Et le deuxième point, je pense que c'est une forme de ténacité ou de résilience. Alors après, on n'a pas des certitudes, mais on a des convictions auxquelles on croit, et en fait, notre rôle, c'est d'assurer la pertinence de l'idée, la pertinence de la stratégie. Et en fait, ça demande la résilience parce que il faut tenir notre point de vue auprès des patrons strat, auprès des commerciaux, faut l'appuyer auprès des créatifs pour s'assurer que, enfin voilà, ça soit exécuté de cette façon-là. Et ensuite, le dernier round, il faut que les clients l'acceptent, qu'ils adhèrent à cette idée. Donc voilà, il y a une espèce de résilience où faut un peu porter l'idée jusqu'au bout et y croire à fond. C'est ça, de la ténacité.
Ça me fait penser à une autre question, justement, dans ton rapport aux clients. Comment ça se passe le process? Du coup, tu élabores une stratégie, ensuite tu la représentes, ensuite tu élabores la campagne, ensuite est-ce que c'est toi qui retourne pour leur présenter la campagne? Enfin, quelles sont un peu tes interactions avec le client, justement?
Voilà. Alors, nous, au planning, on n'est pas en interaction, je dirais, régulière, c'est-à-dire tous les jours avec le client. Nous, on va arriver en deux temps. Le premier temps, c'est vraiment l'échange avec le client quand ils vont nous briefer sur un sujet. Voilà, on a ce problème communicationnel, ce problème marketing. Et on va revenir les voir avec la stratégie, des fois avec la création ou pas. Et notre enjeu, ça va vraiment être de défendre la stratégie en amont, de challenger ce que le client nous a dit. Et ensuite, d'appuyer au maximum les axes créatifs qui ont été développés par l'agence. Donc, on n'a pas une intervention régulière avec le client, mais fondamental à certains grands moments de la réflexion stratégique et de la campagne.
J'en viens justement à se poser la question des compétences dont tu as besoin, donc peut-être en segmentant dans ta réponse, d'abord les compétences dont tu as absolument besoin pour faire ce métier, de par ta formation, de par de la curiosité, etc. Donc à la fois des compétences techniques et des compétences plus humaines, des soft skills, et après on viendra peut-être plus détailler les compétences que tu as apprises depuis que tu fais partie de l'équipe planning stratégique.
Alors pour les hard skills, comme on dit, je dirais que la compétence principale, c'est la capacité d'analyse. C'est essentiel, il faut réussir à se poser des questions, à se décentrer, avoir des points de vue, justifier et comprendre aussi les données que vont nous donner les clients, réussir à apporter de la clarté dans un ensemble d'informations assez denses, pour avoir des conclusions super pertinentes, des angles intéressants d'un point de vue créatif. Et je dirais que, de fait, ce qui est essentiel au planning, c'est de savoir prendre du recul, de la hauteur de vue sur les sujets, un espèce de regard critique pour véritablement distiller la réflexion et clarifier la complexité. Il faut aussi réussir, et c'est un travail de tous les jours, à simplifier l'idée au maximum pour qu'elle soit intelligible, compréhensible pour tout le monde, quoi. Et pour les soft skills, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une forme de résilience. Il faut tenir le cap pour porter des idées stratégiques jusqu'au bout, un peu contre vent et marée.
Oui, c'est savoir bien communiquer tes idées et les faire comprendre.
Jusqu'au bout, et après, la pertinence.
Oui, tout à fait. Super clair. Forcément, une fiche de poste demande un peu le salaire qu'on peut espérer. Donc, est-ce que tu pourrais nous partager un peu, en tant que junior, dans une agence de pub et notamment chez BETC, quel est le salaire qu'on peut espérer en étant strategic planner, ouais. Et après, quelles sont un peu les perspectives d'évolution sur ce plan-là?
Ouais, totalement. Alors en fait, les salaires d'entrée, ils sont plus faibles que pour le consulting de manière générale. Elles ne sont pas les mêmes qu'en consulting. Mais finalement, il y a une perspective d'évolution de carrière qui est peut-être plus importante et qui peut permettre de faire des gaps importants. Alors après, la rémunération salariale, ça va dépendre du type d'agence dans lequel tu es, du contexte économique de l'agence, des clients sur lesquels tu vas être et de la formation, bien sûr. Mais ça oscille dans une fourchette entre 30 et 40K plus. Mais
d'accord.
On a peut-être des perspectives d'évolution. Moi, je le vois. J'ai des amis, beaucoup d'HEC ou de Dauphine qui ont intégré des postes chez l'annonceur, qui ont un salaire plus haut qu'en agence, mais qui finalement ont plus de mal à évoluer ou avoir des grosses augmentations par rapport à l'agence. Donc, c'est un peu un pari que tu peux faire
sur le long terme. Ouais.
Long terme, exactement. Et ensuite, les perspectives d'évolution. Alors en fait, il y en a pas mal. C'est jalonné à la fois par les clients que tu vas avoir à gérer avec plus ou moins d'autonomie. Mais en fait, tu arrives à l'agence en étant junior. Après quelques années, tu passes mid. Donc
planner. Ça veut dire quoi, junior?
Junior, c'est-à-dire que tu es arrivé en agence, tu avais eu un stage ou deux au planning ou pas du tout. Tu vas vraiment apprendre le métier avec un senior ou un patron du planning qui va t'épauler. Donc tu travailles main dans la main avec un patron strat. Plus tu gagnes de l'expérience, en fait, plus tu passes planner confirmé. Donc tu commences à avoir de l'autonomie, même si bien sûr t'en réfères toujours à un patron stratégique. Et ensuite tu passes senior. Donc senior, ça dépend en fait, parce que dans des grandes agences comme BETC, senior, t'as beaucoup de responsabilités, t'as des clients importants que tu vas gérer en autonomie. Et après, la dernière étape, si je puis dire, c'est de passer patron des stratégies, où tu vas avoir une spécialisation par secteur, par exemple patron du luxe ou patron plus du retail, ou pas forcément des contrats FMCG ou grandes conso.
Ok, et en perspective d'évolution en dehors de l'agence, pour voir, tu me parlais de copains annonceurs par exemple, est-ce que c'est des pistes qui sont fréquentes quand on est en planning stratégique? Quels sont un peu les autres métiers de l'écosystème autour de toi qui sont des possibilités pour évoluer dans le temps?
Alors en fait, moi ce que je trouve particulièrement intéressant au planning, c'est que c'est des profils qui sont très recherchés par les annonceurs ou même par les agences de manière générale. Donc typiquement, en fait, s'il y a des profils qui veulent plus se dire voilà, moi je veux aller chez l'annonceur après, ou je vais être plus au commerce, en fait le planning peut être une étape. Par exemple, c'est un très bon moyen d'être une espèce de tremplin, parce qu'en étant passé par du planning pendant 2-3 ans, en fait, c'est un moyen après d'évoluer plus rapidement vers de hautes fonctions commerciales ou aller chez l'annonceur. En fait, généralement, le planning, les marques les adorent, les planeurs. Donc, c'est aussi intéressant de passer par là pour après pouvoir se rediriger. En fait, c'est tellement ouvert. On travaille sur tellement de problématiques différentes qu'il n'y a jamais vraiment de gros problèmes. Moi, depuis que je suis arrivé chez BETC, j'ai pu bosser sur des marques comme Lego, comme les jeux vidéo Sega, un pitch Philip Morris, de l'assurance, de la banque. Là, j'ai le portefeuille Kinder. Donc, voilà, il y a tellement de problématiques différentes que c'est intéressant parce que ça permet d'avoir plein de focales. Et voilà, là. Et même après, on travaille aussi sur des sujets plus corporate ou gouvernementaux. Par exemple, moi, je suis sur le sujet violence faite aux femmes, qui est un sujet d'État, où là, je bosse, pareil pour l'Élysée, sur le World Food Forum, qui est un forum qui va se dérouler à Paris sur les transformations de notre modèle alimentaire. Donc, on a aussi une variété de sujets qui permet de se faire la main dessus pour ensuite aussi s'orienter sur ce qu'on préfère le plus. Moi, en l'occurrence, c'est plus de la grande conso qui m'intéresse, par exemple.
Oui, c'est ça. C'est identifier un peu tes domaines d'appétence et, tout, voilà, et aussi de faire la main sur les compétences à avoir pour élaborer la stratégie pour une campagne.
Exactement.
Justement, je pense qu'une question qu'on aime bien poser, c'est ton rapport un peu entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Ouais. Je suis curieuse de savoir quelle est ta vision de ce sujet et comment est-ce que tu as réussi à trouver l'équilibre. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Work-life balance, en fait, au consulting, on a des sujets et on gère un peu notre temps comme on veut. C'est nous qui nous mettons. Bien sûr, on a les deadlines du client, faut pas se mentir, mais c'est nous qui gérons en autonomie un peu notre rythme de travail. On est moins dans un rythme où on va avoir des choses à rendre tous les jours, en fait, comme des chefs de pub, etc. On va avoir plus de temps pour travailler sur nos sujets. Ça peut aller de une semaine à un mois ou même 2 mois pour de grosses présentations. Et en fait, on va avoir des périodes de rush quand il y a plusieurs clients en même temps qui veulent lancer une campagne ou quand typiquement on est sur un appel d'offres important. Et en fait, c'est vraiment un rythme à trouver. Tu sais, quand tu es dans le creux de la vague, bah, tu as un peu plus de temps et puis après, des fois, tu vas devoir accélérer en fonction des sujets parce que voilà, ouais, le monde est fait ainsi. Des fois, tu as plusieurs clients qui ont des besoins en même temps. Donc, ça dépend vraiment, mais je dirais qu'on est un peu plus libre dans notre gestion du temps et de savoir comment s'organiser, en fait, si je puis dire.
Ok, oui, une sorte d'alternance entre le rush et les sujets très pressants et les sujets un peu plus long terme, plus de réflexion.
Et moi, je trouve ça assez... Enfin, j'aime bien parce que tu as une espèce d'adrénaline de gérer des sujets... super important et en même temps des fois t'as vraiment du temps pour réfléchir sur d'autres sujets ou tu fais des presses qui vont te prendre un mois, mais enfin voilà, donc t'as vraiment ces deux temporalités là et c'est un peu à toi de les gérer, quoi.
Ouais, tout à fait. Ok, et pour résumer un peu ce que tu me disais là, qu'est-ce que tu dirais que tu adores dans ton métier et que tu détestes ou du moins t'aimes moins en un point à chaque fois?
Alors en fait, moi, ce que j'adore dans mon métier, c'est que on se questionne toujours sur ce qui se passe, ce qui se déplace en société, sur les gens, les tensions qu'ils vivent. Et moi, je trouve ça passionnant parce que j'ai une appétence un peu naturelle pour la socio et tout ce genre de choses. Et c'est assez stimulant parce que je me dis tous les livres que je lis en dehors du boulot, etc., ou même les questions que je me pose, bah, je peux les mettre à jour dans mon travail au quotidien. Donc, t'es toujours un peu stimulé finalement, et ça, je trouve que c'est génial. Et après, je trouve que ce qui est passionnant aussi, c'est qu'on s'ennuie jamais. Et ça vaut tous les métiers du monde parce que je sais pas combien de potes qui finalement ont des jobs assez cool sur l'intitulé, qui finalement ont des jobs un peu rébarbatifs où ils s'ennuient énormément, et là en fait t'es toujours stimulé et tu dois toujours être créatif finalement dans les réponses que tu vas apporter aux marques, dans les angles que tu vas adopter. Donc je trouve que c'est ça qui est assez stimulant et c'est assez jouissif, ouais.
Est-ce que t'aimes moins?
Je pense que il y a pas de choses que je déteste. L'enjeu c'est de réussir à gérer plein de clients différents et à toujours rester pertinent à la réflexion dans le temps que tu as, qui t'est donné, quoi. Donc, c'est toujours rester pertinent. Et c'est important d'avoir du temps pour réfléchir à tes sujets. Après, tu as des formes d'automatisme qui se créent, mais voilà, je dirais que c'est réussir à mieux gérer ton temps pour la réflexion.
Oui, carrément. Ok, bah passons peut-être à une phase de conseil du coup pour nos auditeurs. Je pense que pour ceux qui seraient intéressés ou en tout cas curieux du métier dans les publicités, notamment du métier de strategic planner ou par BETC en tant qu'agence, qu'est-ce que tu dirais pour leur conseiller, notamment sur les profils recherchés, sur pourquoi faire de la pub en fait, quelles sont les questions à se poser quand on a justement cette curiosité ou cette interrogation par rapport à cette famille de métiers.
Ouais. Alors, pour répondre à ta première question, parce qu'il y en a plusieurs, il n'y a pas de parcours type. Après, il y a des parcours plus récurrents à BETC. On adore les profils HEC, ESSEC, Sciences Po ou même plus universitaires comme le CELSA ou Dauphine.
Et pour ceux qui se posent la question de la pub.
Après, ça, c'est très personnel. Faut avoir un peu une appétence. Pour ce métier, mais je dirais que la publicité, il y a une forme de responsabilité dedans, c'est-à-dire que au-delà du fait que la publicité est intrinsèquement liée à la consommation, quand on travaille en com, dans la publicité, on a un impact sur le développement des marques, sur l'économie, sur l'imaginaire, sur les représentations sociales qu'on va se faire des gens. Et en fait, je trouve que c'est intéressant parce que ça pousse à se poser plein de questions à la fois soi-même sur l'état de la société et des gens et des marques et sur comment on veut les faire évoluer dans le futur, quoi. On a un travail d'influence que je trouve particulièrement intéressant.
Et pour toi, quelles sont les questions à se poser pour un peu identifier cette appétence pour la publicité, pour ces sujets justement un peu de sociaux, un peu plus profonds? Pour toi, quelles sont les questions que tu t'es posées et que tu aurais bien aimé qu'on te pose pour justement te dire « Ok, c'est la voie que je veux prendre, c'est la publicité, c'est le métier de planeur stratégique. »
Alors en fait, je trouve que ce qui est assez intéressant, c'est que autant moi, je savais depuis quelques années que je voulais faire du planning, autant il y a des profils à l'agence Po qui étaient moins dirigés intrinsèquement vers du planning et qui, en entendant parler de ce poste, l'ont trouvé super pertinent. Moi, je suis rentré par le planning via la socio, mais en fait, ce qui est fondamental aussi au planning, c'est comprendre les logiques business, les constructions de marque, le développement marketing d'une entreprise. Et du coup, en fait, c'est des choses où des profils comme HEC se retrouvent assez facilement, des profils plus sciences de gestion. Donc, je pense qu'il n'y a pas une forme d'appétence pour rentrer au planning, mais c'est multifocal. On va avoir des personnes qui vont être très intéressées par la créa, d'autres sur les gens, d'autres sur le développement de l'entreprise, le développement marketing. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, on est un peu à la croisée de tout ça. Et en fonction des centres d'intérêt ou de tes appétences, tu vas pouvoir mettre le poids du corps sur cette partie-là.
Je vais te poser pour finir mes deux questions que j'aime pour clôturer l'entretien. La première, du coup, à laquelle on a déjà eu un peu une vue pendant cet entretien, mais c'est si tu voulais me convaincre que tu as le meilleur job sur Terre, qu'est-ce que tu me dirais en 30 secondes ?
Je pense que, honnêtement, j'ai vraiment pas besoin de 30 secondes pour dire ça. Je pense que c'est un métier passionnant, qui change tout le temps, qui se transforme et on s'ennuie jamais. Et ça, je pense que ça vaut tous les métiers du monde parce que, enfin, si tu te fais chier dans ce que tu fais, c'est compliqué.
Ouais, carrément. Et au contraire, est-ce que tu pourrais nous raconter une erreur, une petite bourde, un petit événement qui t'est arrivé un peu malheureux pendant tes années d'expérience ?
Alors moi, je suis pas en relation quotidienne avec le client, donc pour le moment, je touche du bois, j'ai pas eu de bourde majeure, mais je te dirais si je me fais virer. Mais non, pour le moment, j'ai pas fait de bourde, donc j'aimerais bien avoir une anecdote, mais non, je suis un peu...
Avant de terminer, si tu as quelque chose dont on n'a pas parlé, que tu aimerais mettre en avant, ou si tu as quelque chose à ajouter.
Après, je veux pas que l'auditeur pense qu'il faut être féru de sociaux et théorie littéraire pour faire du planning. Ça, c'est plus moi, mon côté Roland Barthes ou Bourdieu, mais en soi, il y a des profils très business, enfin, il y a plusieurs clés d'entrée. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant à BETC, c'est qu'on s'appelle consulting pour une chose parce que on a une espèce d'exigence dans la réflexion et l'approche des gens, mais aussi une compréhension fondamentale du business des clients et de la façon dont ils structurent et de la façon dont on peut les aider à se développer, en fait. Et ça, c'est assez fondamental. Et c'est assez rare dans des agences d'avoir cet équilibre entre les gens et le business. Une compréhension forte des deux. Et sinon, si invitée. Je pense que j'ai tout dit. Hein.
Ok, très bien. Bah merci pour cet entretien.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir pu interviewer Valentin pour décortiquer le métier de planeur stratégique. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire aussi à notre newsletter pour avoir accès à nos fiches métiers et les nouveaux épisodes. Comme d'habitude, sinon, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à suivre notre page Instagram @vocationpodcast et surtout à en parler autour de vous. C'est ce qui nous aide le plus à nous faire connaître. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et à très vite sur Vocation.